C'est un ordre, hein ? Soyez remplis par l'Esprit. Que faut-il comprendre de cet ordre de Paul ? C'est ce que je me demandais hier en faisant le plein à la pompe à essence. Fait-on le plein de Saint-Esprit comme on fait le plein de carburant ? Et au prix où se trouve le litre, on serait tenté de marcher un peu à l'économie. Mais quand l'Église se montre économe en matière d'Esprit Saint, ce n'est pas bon signe. Elle s'endort. Ses engagements missionnaires, l'entraide sociale se font rares et sa joie s'estompe. Mais si je lis bien l'Évangile, une chose est certaine. Le plein de Saint-Esprit est gratuit. Le problème se trouve donc ailleurs. Est-ce que ma foi, est-ce ma soif de vie avec Christ qui a tendance à s'éteindre doucement, imperceptiblement ? Alors pour répondre à cette question, comment être rempli par l'Esprit ? On va envisager ce matin, tour à tour, quelques textes bibliques, quelques versets. Parce que je crois qu'avant de faire le plein, il nous faut un peu chercher à comprendre qui est le Saint-Esprit, cette personne de la divinité, personne mystérieuse. Une petite histoire d'ailleurs peut nous y aider. Ça se passe dans l'océan Atlantique, au large des côtes brésiliennes. Et soudain, un cargo émet un message de détresse, SOS. SOS pour cause de fuite. Nous avons perdu toute notre réserve d'eau douce. Nous avons besoin urgent de ravitaillement. Et dans le secteur, croise un cargo brésilien. Il reçoit le message 5 sur 5 et répond immédiatement à cargo en détresse, puisez, puisez. Le cargo en détresse répond, nous ne sommes pas équipés en matériel d'adoucissement d'eau de mer. Le bâtiment brésilien répond, vous n'en avez pas besoin, l'eau sur laquelle vous vous trouvez est douce. D'après votre position, vous êtes directement sous l'influence du fleuve Amazon. L'eau est douce jusqu'à 100 km au large de l'embouchure. Puisez, puisez donc. Ne sommes-nous pas ce matin un peu comme ces marins assoiffés, inquiets, qui cherchent de l'eau alors qu'ils n'ont qu'à tendre la main? En ce lendemain de Pentecôte, nous nous posons la question, comment puis-je être rempli par l'Esprit? Et nous avons un petit peu de mal à croire que la personne du Saint-Esprit nous est déjà pleinement donnée, qu'il n'y a plus, il n'y a plus qu'à puiser. Tout croyant, au moment de sa conversion à Christ, reçoit la pleine présence restauratrice de l'Esprit de Dieu. Nous ne recevons pas une demi-ration d'Esprit Saint et puis, quelque temps plus tard, d'autres petites portions supplémentaires. Non ? Nulle part, la Bible ne nous dit que le don de l'Esprit nous sera accordé au fur et à mesure de nos améliorations spirituelles. La plénitude de l'Esprit signifie que l'Esprit Saint nous est donné tout entier, toute sa personne, comme une grâce de Dieu. Soit on le reçoit tout. Soit on ne le reçoit pas du tout. C'est par la foi en Christ que nous venons à Dieu. C'est encore par la foi en Christ que nous recevons pleinement son esprit. Un premier passage, je vais demander à ce qu'on les clique au fur et à mesure. Un premier passage de Paul aux Corinthiens nous permet de comprendre un peu mieux cela. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juif ou grec, esclave ou homme libre. Ailleurs, Paul dira hommes et femmes, etc. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Et ainsi, par cette parole, Paul fait référence à une autre parole de Jésus. Elle se trouve dans l'évangile de Jean, où Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, de son sein. » Et Jean ajoute, au cas où quelqu'un n'ait pas bien compris ce qui se passe, il ajoute cette parole, on peut la passer aussi. Jésus parlait de l'Esprit Saint que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. Cette eau, ce fleuve d'eau vive, c'est l'Esprit. Mais force est de constater que si nous sommes en effet habités par l'Esprit, nous ne vivons pas tous et tout le temps dans sa plénitude. Et il y a là une réalité paradoxale, une tension. Nous recevons l'Esprit et sa puissance de vie gratuitement, abondamment, et nous passons le plus clair de notre temps à lui résister. Enfin, je parle pour moi, hein, je ne sais pas vous. Ce qui explique le vibrant appel de Paul aux chrétiens de Thessalonique, on peut avancer, n'éteignez pas l'esprit. Encore ? Voilà. Vous entendez bien, nous n'avons pas à aspirer à plus d'Esprit Saint, mais à ce que l'Esprit règne dans nos vies de plus en plus. Ce n'est pas la même chose. Il serait plus juste de dire que c'est lui, l'Esprit Saint, qui aspire à un peu plus de nous. Alors comment laisser, maintenant la question arrive, comment laisser à l'Esprit Saint la place qui lui revient dans nos vies ? Souvenez-vous de la prédication de Pierre en acte 2. Elle finit par cet appel, on peut le passer. Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Se détourner du mal, c'est la condition nécessaire. La présence de l'Esprit est inversement proportionnelle à la présence du mal en nous. Elle est incompatible avec une attitude qui s'accommoderait du mal. Faire le mal ne fait pas seulement mal aux autres. Ça nous fait du mal à nous-mêmes. Cette prise de conscience, comme la femme de la parabole qui se met à balayer hein, dans sa maison, cette prise de conscience salutaire peut nous conduire effectivement à la repentance et nous déclarons alors à nouveau au Seigneur notre amour et notre désir de vivre avec lui, de le suivre. Il y a une image toute simple qui peut nous aider à comprendre l'enjeu de cette vie par l'esprit. C'est un petit garçon, cette fois. Ce n'est plus un marin brésilien. Au Brésil, c'est un petit garçon. Petit garçon qui a glissé sa main dans un vase et qui n'arrive plus à la retirer. Et son papa essaie tout ce qu'il peut pour lui venir en aide, mais rien à faire. La solution crève les yeux. mais elle brise aussi un peu le cœur du papa. Ce vase est une pièce de collection. Mais juste avant d'en venir à cette solution radicale de casser le vase, le papa essaie un dernier truc. Il lui dit, mon chéri, détends tes doigts, les doigts de ta main. Garde-les aussi droits que tu peux. Et puis, retire ta main. Et le petit répond, je ne peux pas faire ça, papa. Sinon, je vais laisser tomber le bonbon que je tiens. Et peut-être que là, nous avons le fin mot de l'affaire. Bien souvent, nous semblons tenir davantage à notre bonbon qu'au Seigneur. Nous résistons à l'acte d'abandon de nos vies à Christ. Chacun connaît son bonbon, je passe à la suite. Mais je crois que vivre par l'Esprit ne consiste pas non plus à mener une vie de moine, entre privation, renoncement, interdiction de tout ce qui est agréable. Sinon, la vie chrétienne serait alors d'une tristesse indéfinissable. Être chrétien, si c'est effectivement abandonner, nous l'avons vu, c'est aussi jouir, profiter de la vie, entreprendre librement, passionnément, joyeusement. On ne le dit pas assez. Souvent, nous nous satisfaisons d'une vie chrétienne avec le moins de péchés possible. Nous n'avons pas d'ennemis, c'est déjà pas mal, quand c'est le cas. Mais la vie par l'Esprit, c'est beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. D'ailleurs, il ne nous est pas demandé de vivre en paix avec les gens. C'est parce que Christ nous demande. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il ne nous est pas demandé d'aller au culte tous les dimanches, mais de vivre chaque instant comme si c'était le jour du Seigneur. La plénitude de vie que veut déverser en nous l'Esprit, vous l'entendez avec ces paroles du Christ, elle fait craquer en nous toutes les limites, tous les cadres, les interdits et les autorisations que nous posons arbitrairement sur nos vies. Tout cela vole en éclats, un ordre nouveau, celui de l'Esprit, s'établit en nous. La vie chrétienne n'est pas un régime à subir, mais une liberté à inventer, une vie à fêter sans cesse, un temps et un espace à investir, une terre promise à découvrir. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur révélateur de la plénitude de l'Esprit dans une vie que la joie et la liberté. C'est ce que j'entends dans cette dernière exhortation de l'apôtre Paul, qu'on peut passer. « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis par l'Esprit. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cinq cantiques. » Merci Alain pour les cinq cantiques de ce matin. « Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez grâce à Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous entendez ici que la plénitude dans l'esprit est opposée à l'ébriété alcoolique. Ou plus précisément, peut-être, je l'entends comme ça, à l'alcoolisme. Sur quoi porte exactement l'opposition esprit-alcool ? L'alcoolisation régulière nous fait perdre le sens du réel. Elle nous suggère de croire en un monde qui n'existe pas. L'alcool, c'est un puissant anesthésiant d'angoisse. Hein ? C'est un antidépresseur efficace. et en même temps un piège sournois. Parce que l'alcool nous isole intérieurement, plus l'alcoolisme que l'alcool nous isole intérieurement, crée une puissante dépendance, et sans parler des conséquences physiologiques. Alors qu'une personne remplie d'Esprit Saint, au contraire, regarde les réalités en face, prend la mesure des choses, elle use de bon sens, elle ne fuit pas, elle est lucide et libre à la fois. Les gens pleins d'Esprit Saint ne sont pas nécessairement des illuminés aux visions prophétiques surnaturelles, tapageuses, mais souvent des gens pleins de bon sens, de solidité, de ferme résolution. Ils sont la plupart du temps discrets, voire silencieux. Et du coup, leur voix n'est pas facile à repérer et à entendre. Et il faut être vigilant, parce qu'il y a beaucoup de bruit qui masque leur voix. Les gens pleins d'esprit ont aussi un grain de folie. Ils peuvent se mettre à parler à tout le monde, dans la rue, comme au jour de la Pentecôte à Jérusalem. Comme le font, d'ailleurs, ça n'a pas échappé aux passants, comme le font les gens ivres, désinhibés, sur la voie publique. Le Saint-Esprit nous invite à franchir les barrières sociales, psychologiques, qui nous tiennent à distance des autres. Ce plein d'esprit a une conséquence très joyeuse. Il suscite le chant dans l'Église. Paul insiste beaucoup, hein. Une Église qui ne chante pas, ce n'est pas seulement une Église triste, c'est une Église qui a besoin de faire le plein du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, les fêtes des retrouvailles prévues le 19 juin accordera une belle place au chant, à la musique. Au cours de ce parcours sur le Saint-Esprit, ce matin, il me reste à souhaiter à chacun bon vent, puisque Dieu nous fait cet inestimable honneur du plein don de l'Esprit. Nous avons, nous, la responsabilité de nous ouvrir à sa présence, à sa joie, à la vision de l'Église qu'il veut inspirer à nos cœurs. Oui, frères et sœurs, soyons remplis par l'Esprit. Amen.